France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Pour la deuxième année consécutive, Solae s'est associé au Festival des Arts de la Parole, organisé à Lourmarin début juillet. En 2025, la question posée était « sitôt dit, sitôt fait ». Une manière d'interroger, en fait, la force performative de la parole. Et chaque matin, je m'entretenais en public avec artistes, intervenants, organisateurs. 4 émissions sont ainsi nées, diffusées au mois d'août dernier, et toujours disponibles, évidemment, sur le site de France Culture ou en podcast. Avec notamment les comédiens Robin Renucci, Olivier Arnera, Bérangère Varluzel, Charles Berling, Laurent Suir, Yael Chantzila ou encore Magali Bracono. La réflexion s'est élargie à la Bible et à la théologie avec les pasteurs Stephen Bachmann et Céline Romer, mais aussi au slam avec le Marseillais Naïm Zriouel, le maire Jean-Pierre Pétavino et Gilles Camin, chez directeur de la Fondation Protestant de Flamme, partenaire du festival, ont quant à eux évoqué les liens entre culture et foi. L'aventure se poursuit encore ce matin et se prolongera par 2 fois au mois de novembre. Retour à Lourmarin donc, avec ce matin, la comédienne Marion Combes. Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture depuis la terrasse de l'hôtel du Moulin à Lourmarin pour ce festival des arts de la parole. Bonjour Marion Combes.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes comédienne, chanteuse, auteure, conteuse témoin du texte de l'Évangile selon Marc,
oui.
Avec Marc l'Évangile, un témoignage que vous avez présenté ici au Festival des Arts de la Parole. Vous nous invitez à une forme de relecture, à la fois poétique, parfois silencieuse, d'autres fois chantée, en tout cas habitée toujours, d'un texte ancestral finalement qui nous rejoint dans une relecture donc vivante et incarnée. Vous portez ce texte depuis très longtemps. Qu'est-ce qui vous a poussé à incarner ce récit biblique ?
Eh bien, c'est la rencontre avec le texte lui-même. Quand j'avais une 20aine d'années, je n'étais pas du tout plongée dans la religion. Je n'étais pas issue d'un milieu qui m'avait élevée dans la religion. Et j'ai découvert à l'âge adulte le texte de l'Évangile. Et ça a été un choc positif. J'ai découvert ce qu'avait dit Jésus, ce qu'il avait fait. Ses regards, ses silences. Alors peut-être ma formation de comédienne faisait que je voyais les paysages, je voyais les temps de silence qui manquent parfois. Voilà, la typographie fait qu'on lit trop vite. Et donc ce texte m'a bouleversée profondément. Et puis par la suite, nous avons monté ce texte dans l'intégralité avec 4 comédiens sur scène. Il y a eu beaucoup de tournées avec ce dispositif. Et puis ensuite, l'envie de le porter à deux, donc pendant longtemps
avec
mon mari Alain, et puis récemment j'ai eu envie de le porter seul. C'est pas par narcissisme, c'est parce que j'avais envie de, en effet, au milieu de 98% de textes bibliques, de mettre 2% de témoignages. Alors c'est un témoignage poétique, c'est-à-dire que
des réactions.
C'est des léger commentaire en lien avec ce que j'ai vécu avec ce texte. Et il y a en particulier la scène avec le père de l'enfant dit épileptique,
oui.
Voilà, qui est le sujet d'une méditation de 30 ans. Par exemple, ça c'est un texte qui me porte depuis très longtemps et que je continue à mâcher, et je crois que ce sera jusqu'à la fin de mes jours.
Et pourquoi Marc ?
Alors initialement, nous voulions présenter l'intégralité d'un évangile. Et Marc était le plus court, et ça faisait 2 heures. C'était exigeant pour les spectateurs, c'était exigeant pour les acteurs. Ensuite, Marc est le plus journalistique. Il va droit au but, et la dramaturgie...
Il est vif, direct, ouais,
voilà,
brut.
Ça va très vite. Et la dramaturgie est vraiment... ça monte sans arrêt jusqu'à la croix. Et la résurrection est bien sûr notée, mais
sûr,
très rapide.
Très rapide.
On n'a même pas vraiment le temps de réaliser encore que déjà la résurrection est dite en quelques versets. Donc tout tend vers la passion, tout tend vers la croix. Et c'est construit vraiment dans une oralité.
Avec ce démarrage dans le désert en particulier, qui est Jean-Baptiste qui crie dans le désert.
Ouais. Et c'est un texte qui a été révisé par Alain Combes, il y a de ça une quarantaine d'années. Ouais. Et je travaille toujours à partir de ce texte qui a été révisé sous la houlette de théologiens et de spécialistes.
Alors justement, comment la lecture grandit-elle au fur et à mesure des années et continue d'être de plus en plus une parole incarnée ?
Alors je dirais qu'il y a deux entrées possibles. Il y a le fait de s'intéresser à la culture dans laquelle ça a été écrit, ouais, et transmis. Ça, c'est très important. De connaître le monde juif du 1er siècle, le monde grec, et de se plonger dans les racines de cette pensée. Après, il y a l'entrée personnelle, les textes qui font écho à notre
L'expérience.
Vie. Voilà. Et je trouve que vraiment ces deux entrées sont nécessaires, parce que si on projette tout de suite nos besoins sur le texte comme une recette de cuisine,
on peut fausser les choses.
Alors il y a des moments de grâce, mais parfois on s'assèche un petit peu. Ouais. Et si on prend le soin de comprendre l'histoire du texte, même l'histoire de sa composition, même l'histoire de la pensée juive et de la pensée grecque, eh bien, on est nourri. Mais je dois dire quand même qu'il y a beaucoup de textes qui m'ont touché personnellement, c'est-à-dire que ça avait un lien avec ma vie.
Bien sûr, j'imagine. Voilà. Il y a des chants aussi, en hébreu, en araméen, il y a même un sanctus à la fin en arabe.
Oui.
Pourquoi cet ajout ? Alors évidemment pour le spectateur, cela nous transporte peut-être un peu plus, mais de votre côté, comment vous l'avez choisi ?
Alors, l'envie de chanter dans les spectacles m'est venue assez vite. J'étais pas chanteuse initialement, mais j'avais envie de me plonger justement dans les cultures du Proche-Orient. Et vraiment, avec beaucoup de naïveté, j'ai appris à l'oreille, vraiment. J'ai appris des chants de Susanna Igventura, qui est une musicologue décédée maintenant, mais qui a fait des transcriptions... Voilà, c'est un peu technique, mais à partir des psaumes, elle a déduit des musiques.
Oui.
Donc voilà. Et puis j'ai appris aussi auprès de personnes, par exemple une amie libanaise qui m'a appris ce sanctus en arabe. Et puis des amis divers et variés qui m'ont appris. Alors c'est la transmission orale. Alors je sais ce que je raconte, je sais ce que je dis, mais je ne sais pas parler les langues.
Vous travaillez aussi avec beaucoup d'autres textes, d'autres sujets, pas spécialement en lien avec la foi chrétienne. Est-ce que dire l'évangile est quelque chose de particulier, de différent en tant que comédienne ?
Personnellement, le choix que je fais, c'est de me mettre totalement au service du contenu, ce qui est le cas de tous les comédiens, bien sûr, c'est l'idéal, mais avec une certaine transparence. Je suis là, mais je fais un travail qui est vraiment complètement au service du texte et du message que porte ce texte. C'est quand même un texte à message.
Bien sûr.
Et
on peut difficilement faire moins.
Oui. Et peut-être que pendant tout un temps, quand j'étais en duo, j'étais encore plus dans une forme de réserve.
Ah oui.
Parce que il faut s'accorder avec son partenaire. Il faut être dans le même style de jeu que son partenaire. Et Alain est très réservé. Un jour, on nous a dit qu'on jouait zen. Bon, j'ai pris ça comme un compliment. C'est épuré, c'est un peu comme des dessins très, très épurés. Et puis quand je suis seule, finalement je suis maître à bord. Je me laisse aussi porter par les personnages. Et il y a des personnages que j'incarne un petit peu plus. Un peu comme dans les one-man shows, dans les seuls en scène pour parler français. Donc là, je m'amuse un petit peu plus.
Il y a un petit peu d'humour, alors
voilà,
on ne se plie pas en quatre, mais il y a des petites notes qui amènent le sourire des spectateurs.
Oui, c'est humain tout ça. Ouais. Et moi, quand je suis sur scène, j'entends tout, j'entends les sons des cloches, j'entends l'éternuement.
Vous avez joué avec le son des cloches.
Voilà,
hier,
oui, donc je fais avec la situation, avec les gens qui sont là, avec mon état aussi. Et donc tout est extrêmement à la fois fragile, et c'est cette fragilité qui fait la beauté de l'instant, et c'est pour ça qu'on vient au spectacle vivant, c'est parce que c'est un moment unique. Ce qui s'est passé hier, c'est unique, et ça ne se reproduira plus jamais.
C'est cela.
Mais lui, une fois sorti, commença à acclamer abondamment l'événement, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer dans une ville. Il restait en pleine campagne, mais les gens ne cessaient de venir à lui de partout. Et quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Alors les gens apprirent qu'il était à la maison. Alors ils s'assemblèrent en grand nombre, au point qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. On amène un homme paralysé porté par 4 hommes. À cause de la foule, on ne peut pas lui présenter.
Vous vous en fichez là, vous tous.
Les gars, ils se découragent pas. Ils montent sur le toit. Ils enlèvent la couverture du toit et ils font descendre le lit où l'homme paralysé est couché. Jésus voit leur foi. Il dit à l'homme paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Des scribes qui sont là se demandent, « Mais qui est celui-là qui parle ainsi ?» Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Pourquoi pensez-vous de telles choses dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire à l'homme paralysé, « Tes péchés te sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Eh bien, afin que vous sachiez que sur la terre, le Fils de l'homme a l'autorité et le pouvoir de pardonner les péchés, à toi je dis, « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Alors, à l'instant et devant tous, il se lève, prend son lit et sort. Oh, ils en sont tous ahuris. Non, mais vraiment ahuris, hein, plus que vous, hein, je vous assure. Hein. Oh là là, mais non, mais on n'a jamais rien vu de pareil.
Vous interrogez parfois le public, puisque Jésus interroge,
oui.
ou d'autres.
Oui, il demande qui dites-vous que je suis.
Par exemple, voilà. et vous, vous demandez au public. Alors, oui. Ce qui est intéressant... hier, en tout cas, c'est que les gens n'osaient pas répondre.
Oui, comme si... les disciples, d'ailleurs, parfois.
C'est ça.
Et parfois, les disciples répondent, mais Pierre répond, mais à côté de la plaque,
ouais,
le pauvre. Il a mis du temps à comprendre, hein, Pierre. Et puis, parfois, ils sont muets parce qu'ils ont peur que Jésus les rabroue. Parce que de temps en temps, Jésus est assez dur avec ses disciples.
Oui, c'est avec eux qu'il est le plus dur et avec les religieux autour.
Tout à fait.
Ça, c'est quelque chose de notable dans son attitude. Mmh. Mais ce silence des spectateurs m'amusait parce qu'on avait l'impression que, à la fois, ils se demandaient si ça faisait partie du spectacle, si c'était vraiment à eux que ça s'adressait, et puis peut-être aussi, finalement, ne savaient pas quoi répondre.
Oui, j'aime bien créer ces petites ambiguïtés. Ouais. À la fois, le spectacle est répété, tout est prévu en grande partie, mais il reste cet instant un petit peu unique,
suspendu
et qui fait la fragilité de l'instant.
Vous, personnellement, quelle partie de l'Évangile, selon Marc, vous bouleverse le plus ?
Bien, j'en parlais tout à l'heure, c'est le chapitre 9 de l'Évangile de Marc.
Avec cet enfant.
Voilà, alors c'est un épisode qu'on nomme parfois l'homme à l'enfant épileptique. Bon, le mot épilepsie n'est peut-être pas approprié, mais en tout cas c'est un homme qui amène son enfant à Jésus et qui... Et cet enfant a des crises qui le rendent raide, qui grince des dents. Il risque de tomber à tout instant dans des fossés, dans l'eau, dans le feu. Et ce père vient en dernier recours voir Jésus, le rabbi, celui qui fait des miracles. Il sait juste ça de Jésus. Et ses disciples qu'il avait vus auparavant n'ont pas été capables de guérir son enfant. Donc là, il met tout son espoir dans ce guérisseur. Et le texte est énigmatique. Parce que si on l'étudie, on voit que la foule se rassemble au moment où Jésus est face à l'enfant. Et puis quelques versets plus tard, on dit « la foule se rassemble ». Donc ce qui n'est pas dit, c'est que la foule s'est dispersée. Mm-hmm. Donc ce qui nous manque dans le texte, c'est le temps.
Oui.
Et ce temps, c'est le temps du silence du Christ. Parce que plus tard, à la fin de l'épisode, quand ses disciples disent « mais pourquoi on a été incapable de chasser cet esprit, cette maladie ?» Et il dit « cette sorte-là ne peut être chassée qu'au moyen de la prière. Et la prière, c'est du temps. Mmh. Donc voilà, c'est un peu exégèse.
C'est une belle exégèse en tout cas et qui peut nous donner à réfléchir. C'est dans cet épisode aussi que cet homme dit « je crois, je ne crois pas, viens au secours de mon incrédulité, de mon manque de foi ».
Oui. Alors ça, c'est, je trouve qu'on se retrouve vraiment dans ce cri parce que c'est là aussi cette fracture. Il y a des paroles comme ça dans l'Évangile qui sont comme des fractures d'humanité et qui sont à la fois le lieu de la guérison. C'est-à-dire au moment où cet homme dit en toute vérité devant Jésus, « Je crois pas. En fait, je crois pas. » C'est là qu'il a le plus confiance.
Et c'est, oui, C'est là que le cœur s'ouvre, que oui. La foi, oui. Finalement, peut arriver. La foi a besoin du doute pour exister, sinon elle n'est pas foi véritablement, au sens propre du mot.
En tout cas, le doute n'est pas dans le fait que Jésus est là.
Oui.
Il est là. Moi, je ne doute pas qu'il soit là. Et par contre, ce qui nous fait vaciller, c'est son silence. Mmh. Ou ses réponses qui ne nous satisfont pas. Mmh. Mais le silence, c'est parfois déjà une réponse. Hein. Voilà, on apprend tout ça au fur et à mesure de la vie. Et voilà.
En tout cas, le spectacle invite le spectateur à une rencontre renouvelée avec l'Évangile. Mmh. Moi qui connais très bien cet Évangile, hier, en vous entendant, c'est une nouvelle façon de l'aborder, des choses qui interpellent, qui nous bougent, qui nous déplacent. Mmh. Comment en tout cas entretenir ce dialogue entre tradition et puis interprétation personnelle, puisque vous ajoutez de votre vécu, vous l'expliquiez.
C'est le temps qu'on passe avec le texte, et puis on a plein d'outils. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas la science infuse et qu'il y a des personnes qui se penchent sur ces textes depuis près de 2000 ans. Et on a accès à ces textes facilement dans les librairies, dans les médiathèques. Il y a des commentaires qui sont des commentaires vraiment nourrissants. Il y a des concordances. Alors c'est formidable les concordances. On peut naviguer dans toute la Bible.
À partir de mots.
Voilà, la Bible explique la Bible. Moi, j'ai commencé à lire la Bible avec une Bible à parallèles. Et je lisais tous les parallèles, tout.
C'est-à-dire qu'on
voyage dans tout le texte. À partir d'un verset d'Évangile, on peut aller dans l'Ancien Testament, on peut aller dans les psaumes, on peut aller bien sûr dans l'Apocalypse ou dans les Épîtres. Oui. Donc on a des outils à disposition. Et parfois, je me dis, si on se décentre de sa perception, c'est important. C'est important de pas se situer au centre de la compréhension. Bien sûr, on est reconnu en tant qu'individu, on a de la valeur aux yeux de Dieu, on est aimé, mais on a la nécessité de travailler. C'est très dangereux de dire « l'Esprit Saint m'a dit ». Voilà, parfois oui,
mais c'est possible.
Il faut être humble et se poser beaucoup de questions.
Et se replacer peut-être dans une histoire qui nous dépasse, ancienne, et puis à venir aussi. Finalement.
Savoir se placer la caméra ailleurs aussi. Ouais. Écouter les théologies différentes. Mmh. Qui nous heurte parfois, mais c'est très intéressant de dialoguer.
C'est parfois là qu'on est le plus ouvert finalement à l'Esprit Saint.
Ça rabote, hein, ça rabote parfois quand on est face à une personne qui croit vraiment complètement différemment de soi.
Ouais.
Mais c'est important qu'on continue à dialoguer et qu'on se place pas en tant qu'individu au centre. Notre vécu n'est pas normatif. Ça ne doit pas devenir notre vécu n'est pas normatif pour les autres.
Je t'ai amené mon fils. Qui a un esprit qui le rend muet. Quand il s'empare de lui, où que ce soit, l'esprit le fait tomber à terre et l'enfant écume, grince des dents et devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. Amenez-le-moi.
Le père amène l'enfant.
Mais dès qu'il voit Jésus, l'esprit le fait tomber à terre et l'enfant écume, grince des dents et devient raide. Tu vois, maître, fais quelque chose.
À Lourmarin, au Festival des Arts de la Parole, qui est centré sur le pouvoir de la parole en action, la parole performative, que vient apporter votre parole d'évangile à votre avis ? Dire Marc dans ce contexte-là
Alors, ce qui serait super, c'est d'interviewer les spectateurs, savoir ce que ça a produit en eux, d'entendre. Est-ce qu'il y a eu des bouleversements ou des émotions, déjà. C'est performatif, ça, de créer une émotion à travers le verbe.
Alors, de mon point de vue, je dirais oui, parce que j'observais, j'ai même pris quelques photos et on voyait vraiment les gens, en tout cas captés par ce qui était dit et généralement aussi là, avec des émotions en fonction des passages.
Oui, oui, c'est vrai que la passion du Christ, c'est très fort.
Ouais.
Après, la parole du Christ est par essence performative, puisque il est un avec le Créateur. Et donc, vraiment, je me comprends bien dans le cadre de ce festival. Et je réfléchis aussi en tant que formatrice, puisque je suis prof de théâtre. Et je suis aussi accompagnatrice de personnes qui sont parfois en grande souffrance. Voilà, en tant que chrétienne, en tant que humaine. Et par exemple, quand quelqu'un se sent profondément coupable, au point même de vouloir mourir, quelqu'un qui lui dit « tu n'es pas coupable ».
C'est une parole performative.
C'est une parole performative qui peut donner la vie.
Oui. Ouais. Vous faites l'enchaînement parfaitement avec la question qui est arrivée. Vous êtes enseignante en technique vocale, en art oratoire. Vous accompagnez des gens aussi donc dans ce domaine-là. Quel lien, vous, personnellement, entretenez-vous entre le dire intérieur et là, le registre de la foi présent, et puis le travail formel de la voix? Parce que dans votre spectacle, il y a les deux. On sent cette foi intérieure présente, et puis il y a toute la technique aussi. Comment vous entretenez ce lien et comment vous l'enseignez finalement, peut-être?
Vaste question. Ouais. Donc depuis ma prime jeunesse, j'ai pris des cours de théâtre. D'ailleurs, à Aix-en-Provence initialement, avec la fameuse Micheline Palliard. J'ai commencé avec elle, qui avait formé Fanny Ardant et Philippe Cobert, entre autres. Et puis ensuite,
belle référence.
Voilà. Oui. Ensuite, très vite, je suis passée à un autre cours de théâtre dirigé par Alain Combes, qui est devenu mon mari. Et là, dans ces cours, j'ai découvert la joie de dire. Je parlais très vite étant adolescente. Et j'ai découvert l'art de faire sonner la voyelle. Et ça, c'est quelque chose qui est valable tant pour le chant que pour la parole parlée. Beaucoup de choses se passent dans les voyelles. Et donc, c'est l'art de prononcer la voyelle dans toute sa plénitude. La langue française est faite ainsi, c'est un ruban de voyelles à l'intérieur duquel explosent
des consonnes
qui sont pas si explosives que ça comparé aux langues britanniques et à l'allemand. Mais ce ruban de voyelles, le français déteste le hiatus.
Oui.
Dans la langue classique, on apprend à déployer la voyelle, comme je suis en train de le faire là. Et il y a une portée profonde à prononcer la voyelle. Déjà pour celui qui la prononce, un A, la voyelle A est la voyelle la plus ouverte. Quand on chante un A, on a l'impression de se mettre tout nu. Hein.
Ouais,
voilà.
Ouais, ouais.
Chaque voyelle a un potentiel vibratoire qui est à développer, et les chanteurs lyriques le savent très bien. Leur job, c'est vraiment de travailler pour que chaque voyelle ait la même incidence acoustique, que le I sonne comme le A, qu'il ne soit pas plus strident que le...
Qu'il y ait une harmonie.
Qu'il y ait vraiment une harmonie totale dans tous les mots qui vont être prononcés. Et je fais un peu le même travail avec mes élèves, même acteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu une seconde nature chez moi.
Et est-ce que le dire intérieur, je reviens à cet aspect des choses, alors pour vous notamment la foi, mais ça peut être aussi d'autres choses portées par l'artiste. Est-ce que finalement c'est dans ces voyelles que les choses vont résonner aussi, vont... Alors c'est très subjectif tout ça, évidemment.
J'ai du mal à répondre. La langue, c'est un tout, c'est un souffle d'abord. Tout commence par un silence. Il ne faut pas oublier l'art du silence. Et le silence, c'est la liberté de l'auditeur. Si on remplit l'espace sonore de ces mots, c'est quelque part, on met la main sur la conscience de quelqu'un. Il n'a pas le recul pour dire, est-ce que je suis d'accord ou est-ce que je ne suis pas d'accord. Donc le silence est très, très important. Et toute cette combinaison de souffle, de silence, de voyelles et de consonnes, c'est ce qui fait la musique de la langue. Et la musique, ce n'est pas une cerise sur le gâteau. La musique, elle porte le sens. En fait, forme et fond ne font qu'un.
Complètement.
Et il y a peut-être, alors là je vais jouer les vieilles schnocks, il y a parfois une rapidité dans certaines communications, que ce soit des communications politiques ou artistiques, ou une rapidité qui vient desservir le fond.
Alors je vous rejoins totalement,
voilà,
je suis bien
d'accord
avec vous.
Si je pouvais coacher certaines personnes pour leur expliquer que c'est parfois dans le silence que le message va passer, pas dans le flot de paroles.
Et on pourrait le dire aussi avec un certain nombre de journalistes également.
Alors oui, oui aussi. Voilà, tout est question de mesure, parce qu'en radio, c'est vrai que le silence est l'ennemi.
Il faut qu'il y ait du rythme,
voilà,
bien sûr.
Voilà.
Mais parfois, c'est vrai que on veut aller vite, on veut faire dire, et finalement on passe à côté du sens.
Oui, et parfois il y a des personnes qui écoutent des films en les accélérant, pour que ça aille plus vite.
C'est vrai.
Des chefs-d'œuvre en accéléré.
Ouais, là, bon, sans commentaire. On arrive à la fin de notre entretien. Et pour conclure ce café matinal, il y a une question plus ou moins rituelle là dans ce temps d'un café cette année. Si vous deviez offrir un mot, une phrase, une image tirée de votre spectacle que vous iriez déposer dans la tasse de nos auditeurs ce matin.
Ça va pas être très rigolo.
Bah, c'est pas grave, hein. On n'est pas forcément dans l'humour. Ouais, hein. Parfois, il y a des choses moins drôles qui sont importantes aussi.
Il y a une parole qui me bouleverse dans l'évangile de Marc. Ouais. C'est quand Jésus est sur la croix et qu'il dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans ce questionnement, toute l'humanité se retrouve. Toute la souffrance depuis le début de l'humanité jusqu'à son terme est contenue dans cette parole. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Et Dieu lui-même incarne cet abandon. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous, qui sommes dans une solitude mortifère, peut dire qu'il n'est pas seul, qu'avec lui, il y a le Christ en croix, et le Christ qui l'emmène bien sûr vers la résurrection. Voilà, cet abandon déchirant qu'on peut crier un jour ou l'autre dans sa vie, ce n'est pas un abandon total, il y a quelqu'un avec nous.
Merci Marion Combes, cela fait écho en plus avec le débat qui a eu lieu hier, juste avant votre spectacle, après la projection du film Le Décalogue, Un seul Dieu tu adoreras, le premier morceau de ces 10 propositions de Krzysztof Kieslowski. Et on a dit à peu près les mêmes choses à partir du film, c'est très intéressant de faire le lien d'ailleurs. Merci beaucoup Marion Combes.
Merci Jean-Luc. Merci beaucoup.
Retour rapide en studio pour annoncer le morceau avec lequel nous nous séparerons ce matin. Un extrait du dernier album de Robert Plant qui revient à 77 ans avec Saving Grace, luxueux recueil de reprises où se conjuguent folk, blues et spirituals, porté par l'énergie complice de son groupe éponyme. C'est justement un vieux spiritual que je vous ai choisi, Gospel Plague, réarrangé ici avec retenue et émotion, titre qui clôt l'album sur cette douce invite. Garde ta main sur la charrue, tiens bon, sans doute, comme un geste de persévérance musicale et spirituelle. Matthew, Mark, Luke and John, all them prophets dead and gone, keep your hand on the plow, hold on. Never been to heaven, but I've been told, streets up there lined with gold, keep your hand on the plow, hold on. Hold on, hold on, keep your hand on the plow, hold on. C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France. Présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé à Paris par Thomas Jost et Tar Bouklifa à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. À la télévision ce matin sur France 2, de 10h à 10h30, un documentaire exceptionnel pour célébrer les 70 ans de présence protestante, ce qui en fait d'ailleurs l'une des plus vieilles émissions de la télévision française. En retraçant son histoire et son évolution jusqu'à aujourd'hui, ce documentaire historique revient sur cette grande aventure de télévision et de foi qu'est Présence protestante, Une foi, mille visages, un documentaire de Julien Leloup. Et à suivre ici sur France Culture, Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin, juste après vos informations de 9h. Bon dimanche à chacune et chacun.